partout au Québec.
Partout au Québec.
Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Mon Grain PM.
Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes le 12 août 2020, mercredi, déjà le cœur de la semaine. Merci d'être là et on s'en ensemble pour les trois prochaines heures. Et je vous dis que le menu est fort chargé, un peu indigeste par endroit parce que les sujets, il y en a quelques-uns qui sont assez durs à traiter. 95 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés au Québec, selon les derniers chiffres. Et il y a 10 décès qui remontent à plusieurs mois qui viennent de s'ajouter, évidemment, à cette liste-là. Comment ça? Ben, c'est parce que l'endroit où ça s'est passé, une résidence de Westmount, un CHSLD de Westmount, la place Kensington, eh bien, il y a eu une pénurie de personnel, puis ils n'ont pas eu le temps d'envoyer le papier dans le fax pour dire qu'il y avait eu des décès. Alors, voilà que ça s'ajoute donc à la statistique. Donc, il faut voir que les statistiques, c'est important, ça donne une orientation, une tendance, mais ce n'est pas une traduction tout à fait réaliste et réelle, et en tout cas, au poil et à chaque cas. Qu'est-ce que vous voulez? On est en retard dans quelques affaires. Il y a une autre affaire pour laquelle on est en retard, où on a effectivement eu du recul, c'est la langue française au Québec. Depuis la loi 101, qui avait fait un tollé, mais qui était devenu quelque chose de courant, on a, à mon point de vue, pris l'habitude de penser que c'était là et qu'il n'y avait pas de surveillance à y faire. Et malgré la surveillance qu'on y fait, il y a des influences énormes au point de vue de la commercialisation, au point de vue du commerce international, au point de vue de tout ce que vous voudrez, qui fait en sorte qu'il y a un sondage qui paraît aujourd'hui laissant entendre que on exige beaucoup la connaissance de l'anglais avant l'embauche dans différentes entreprises, à Montréal plus particulièrement, moins ailleurs, évidemment. Alors, on va parler de ça et j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Mme Pauline Marois sur ce sujet, entre autres. Elle sera une de nos invitées. On aura un entrepreneur également et on va discuter de cette réalité-là. Puis, à vous aussi, je vais demander de participer à cela parce qu'on va ouvrir nos lignes lorsque le sujet sera à l'ordre du jour, pour être capable de connaître vos réactions. Est-ce que vous avez un complexe de ne pas parler anglais? Est-ce que vous apprendriez l'anglais pour être capable d'avoir un travail plus important, supérieur? Est-ce que non, le français suffit? Est-ce que le français est malade chez nous? Oui, il peut l'être, mais est-ce qu'il est en détérioration dans son utilisation? Ça, c'est une autre question. Et enfin, et c'est le premier sujet qui va retenir notre attention, on est dans une vague de dénonciation de toute nature sous le couvert de l'anonymat. Ça a porté et ça a capté l'intérêt et l'attention des médias. Et il y a plus grave que ça. Il y a des prédateurs sexuels qui sont inscrits dans un registre. Vous savez qu'il y a un registre. On ne peut pas connaître la teneur du registre, ce n'est pas rendu public. Mais en même temps, ils sont en libération conditionnelle et continue d'œuvrer quand même. Et c'est des cas qui sont tout à fait absurdes. Il y en a un ici, là. Il a été condamné à 21 ans. Aux deux tiers de la sentence, il est sorti. Il se faisait passer pour un monsieur Cox. Et puis là, il s'appelle Vautour. Et il a récidivé à Outremont. Une chance, la jeune fille de 16 ans a réussi à sortir du véhicule parce qu'il s'est fait passer pour une police pour dire « Viens donc ici, toi, je veux te parler. » Alors, si elle n'avait pas eu cette réaction-là, qu'est-ce qui serait arrivé? Mais ce gars-là est un récidiviste. Il était en liberté. Oui, il a purgé sa peine. Oui, il a répondu aux conditions du deux tiers de la sentence. Oui, tout ça est bien beau, mais est-il réhabilité? Est-il réhabilitable? Et quelles sont les garanties et les suivis que l'on accorde à ces gens qui circulent librement, avec des conditions, mais qui sait? Et ils sont peut-être vos voisins. C'est épouvantable de penser ça. Est-ce qu'ils sont réhabilités? S'ils le sont, je vis bien avec ça. Mais si c'est parce qu'ils ont franchi la règle du deux tiers de la sentence, puis là, on les remet en liberté, puis il faut qu'ils parlent à leur agent une fois par semaine ou que l'agent aille les voir, je ne sais pas, peu importe les conditions, personnellement, je serais inquiet. Mais je suis inquiet parce qu'il ne m'est rien arrivé non plus. Mais il y a des gens à qui c'est arrivé et qui l'ont vécu de façon tragique. Madame Soucy, peut-être la connaissez-vous, c'est Dolores Soucy, c'est la mère de Jolaine Riendeau. L'affaire remonte en avril 1999, alors que sa fille, Jolaine Riendeau, a été assassinée. Elle était allée s'acheter un sac de chips au dépanneur, puis personne n'a été arrêté pour ce meurtre. Personne, encore. Mais Robert Laramie, le suspect numéro un dans cette affaire, n'a jamais voulu se soumettre à un test de polygraphe. Remarquez bien que tu n'es pas obligé de te mettre à un test de polygraphe. Et le test n'est pas applicable et recevable devant les tribunaux. Ceci étant dit, cet individu, non seulement aujourd'hui est-il en maison de transition, mais il ne semble pas respecter ses affaires et ses obligations. Et on ne sait toujours pas qui est celui qui a enlevé la vie à cette fillette de 10 ans. On va parler à Dolores Soucy, qui est la mère de Jolaine Riendeau, qui, soit dit en passant, est déménagée du centre-ville de Montréal pour protéger ses enfants, et je la comprends. Bonjour, Madame Soucy.
Bonjour, monsieur.
Comment ça va?
Ça va. On fait juste vivre au jour le jour en attendant toujours des nouvelles après 21 ans.
Elle aurait 31 ans?
32 ans. Elle a eu 32 ans le 8 août.
Dites-moi, Madame Soucy, est-ce que le fait de ne pas avoir trouvé le coupable ajoute au poids de votre deuil?
Oui.
C'est véritablement ça que vous attendez. Vous attendez que la justice fasse justice, trouve le coupable et le mette en dedans.
Oui, mais on le sait, c'est qui le coupable. On le sait, c'est qui le coupable. C'est ce que vous avez dit, monsieur, tantôt, c'est suite au détecteur de mensonges qui est ni recevable à la cour non plus. Mm-hmm. Mais on le sait, c'est qui le coupable. Parce qu'il continue. Puis il continue. Puis même encore à ce jour, après 21 ans, il est encore en maison de transition. Il y a un méchant problème.
Qu'est-ce que vous calculez? Selon vous, là, dans l'expérience, moi, je peux bien parler, je n'ai pas vécu familialement le drame que vous avez vécu. Selon vous,
non.
Qu'est-ce que c'est que la solution? Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait contre eux autres?
Oui, pour être sûr que...
On les laisse en dedans. Tant qu'ils n'ont pas prouvé, tant qu'ils n'ont pas tout fait en dedans, on les laisse en dedans. On les laisse en dedans ou on les envoie toutes d'une jungle attachées après un arbre? C'est pas dur, là.
Ça, c'est un petit peu de vengeance. Je comprends votre affaire. Mais ce que vous dites, c'est que le système, présentement, ne garantit pas aux citoyens que ces gars-là ne le referont pas parce que la liberté conditionnelle n'est pas assez surveillée. Et peut-être leur mettre un bracelet pour qu'on sache où ils vont.
Ah, puis même encore un bracelet. Il y en a qui sont trop ratoureux. Non, mais je trouve ça dommage parce que les victimes là-dedans, ils ont des soins de soi psychiatrie ou psychologie ou être ses pelules. Puis les prédateurs, eux autres sont en dedans. Ils ont 3 repas par jour. Ils ont toutes les ressources à voulues. Puis... Bien, on paye encore pour ça, puis on va toujours payer pour ça parce que la justice face à ces prédateurs-là, moi, je commence à voir que la justice prend pour eux autres. Puisqu'ils envoient en dedans, ils les nourrissent, ils les traitent, tous les tests pas possibles. Puis nous, les victimes, on va vous donner un soin de psychothérapie ou de psychiatre ou de psychologue.
Mais ils vont...
C'est ça qu'on reçoit, nous autres.
Mais ils ne vous font pas vos repas. Vous êtes obligé de bûcher pour continuer à manger votre pitance.
C'est ça.
Dolores aussi, si ce monsieur était reconnu coupable, alors que vous, on le sait, vous le dites, nous le savons, c'est qui, mais le jour où ce gars-là va rentrer en dedans pour le meurtre de votre fille, est-ce que ça va panser un peu vos plaies?
Peut-être un petit peu.
Là, je ne veux pas dire où vous demeurez maintenant, mais est-ce que c'est plus tranquille? Est-ce que vous êtes plus en paix?
Oui.
Et vous prenez soin d'un petit bonhomme aussi, là?
De mon petit-fils. J'ai déménagé en Haute-Mauricie pour protéger mon petit-fils de la ville de Montréal. C'est pas dur, là. C'est ça.
Merci beaucoup de l'arrêt souci, maire de Jolaine Riendeau, toujours évidemment en deuil et en quête de justice pour le crime qui a enlevé la vie à sa fille. Merci, Madame Souci.
Merci beaucoup à vous, monsieur. Passez une belle journée.
Vous aussi, hein? Vous aussi. Nancy Roy, elle est directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, qui s'appelle l'AFPAD. Elle demande que le registre des délinquants sexuels soit rendu public. Elle rappelle aussi que la CAQ avait fait cette promesse. On verra bien si promesse sera tenue. Nancy Roy, Maître Roy, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le registre des délinquants sexuels?
Évidemment, c'est un registre qui est accessible qu'aux policiers, où on y met là, tous ceux qui ont été reconnus coupables d'un crime sexuel. Évidemment, c'est le juge qui en décide. Sauf que nous, ce qu'on demande, c'est que ce registre-là soit accessible, soit contrôlé, encadré par des professionnels, comme des criminologues, des policiers, des juristes, où ces gens-là décideraient lesquels vont être rendus publics pour assurer une protection à la population et faire en sorte qu'il n'y ait pas des histoires qui se répètent comme Marilyn Lévesque qui a été assassinée par un récidiviste. Donc, ce qu'on demande, c'est la protection des victimes. On l'a entendu, là, comment c'est difficile pour ces gens-là à vivre. On en a des dizaines de personnes, nous, à la STAD, qu'on représente, et on se dit, là, il faut se donner des outils, il faut pouvoir demander à la population, pour les criminels qui ont un haut taux de dangerosité, qui ont un niveau de récidive très élevé, bien, on se dit, donnons-nous les outils pour protéger les personnes vulnérables.
Madame Roy, quand je regarde ça, en quoi de rendre public, je ne suis pas capable, moi, là, de, parce que je connais pas le sujet, probablement, de faire le contact entre le fait de savoir qu'ils sont inscrits à un registre, qu'il y a une liste de prédateurs sexuels possiblement récidivistes éventuellement, et le contrôle que ça amènerait sur leur comportement le jour où ils sont hors prison.
Bien, évidemment, c'est parce que quand ils sortent, ils ont des conditions hein, de liberté à respecter. Alors, ces conditions-là, souvent, pour des prédateurs sexuels, ça va être de ne pas s'approcher des parcs, de ne pas s'approcher des lieux où il y a des enfants ou des personnes vulnérables. À ce moment-là, bien, s'ils ont un haut taux de récidive où on pense qu'ils pourraient être dangereux, bien, il y a des gens qui peuvent, parce que vous savez qu'à Vancouver et en Ontario, ils ont un registre qui est administré et encadré là, par des professionnels. Donc, c'est des gens de la population qui pourraient savoir que, ah, bon, ben cette personne-là est sur le registre, il est dangereux et je le vois sur le bord du parc. Mais j'appelle et donc, ces arrestations préventives-là pour un non-respect des conditions feraient en sorte de sauver peut-être beaucoup, beaucoup de vies brisées.
Est-ce que vous êtes au courant s'il y a moins de récidives dans les cas où ce que vous venez de nous expliquer est mis en œuvre?
Mais écoutez, ça a été prouvé en Ontario qu'il y a eu beaucoup d'arrestations préventives. Donc, on se dit, s'il y a des arrestations préventives, c'est qu'il y a un bris de conditions et c'est à ce moment-là, ben, il n'y avait pas d'affaires près du parc. Il y aurait peut-être des victimes à ce moment-là, des victimes potentielles. Puis ce n'est pas que la personne que sa vie est brisée. C'est toute une famille, c'est toute une communauté. Donc, je pense que la société est rendue là. On avait demandé à la CAQ de mettre en œuvre un registre, pas que tout le monde soit rendu public, mais que certaines personnes où on a besoin de l'aide du public, vous savez, les policiers ne peuvent pas suivre toutes ces personnes-là. La solution du bracelet électronique que vous mentionnez, je pense que c'est une très bonne solution qui pourrait être administrée puis sauver des vies.
Quand on parle de registre, il y a combien de noms dans le registre, est-ce que vous le savez?
Il y a plusieurs dizaines de milliers de noms, mais je sais
qu'au Canada,
il y a à peu près 700 criminels dangereux, là, des prédateurs dangereux qui sont arrivés au bout de leur sentence et qui sont libres. Donc, je me dis, ben, c'est pas pour rien. Là, on ne demande pas ça pour une ou deux personnes. On demande ça pour plusieurs.
Au Québec, est-ce que vous le savez? Excusez-moi, au Québec, est-ce que vous le savez?
Le nombre exact au Québec, non. Non, mais ça va.
Mais s'il y en a 700, s'il y en a 700 au Canada, on doit bien être bon pour en avoir une cinquantaine chez nous, là.
Exactement. Même, je dirais, un peu plus, là. Souvent, on a plus de... On est les grands champions, là, sur les prédateurs sexuels au Québec. C'est pour ça qu'on demandait que la CAQ intervienne puis encadre ce registre-là. Il y a assez de professionnels dans le système de justice qui pourraient en décider qui a une dangerosité puis qui en a pas.
Quand quelqu'un a purgé sa peine, il a... payer sa dette à la société, il est remis en liberté sous condition. Mais les moyens de contrôle sont défaillants à ce moment-là s'il y a autant de récidives.
Ils sont extrêmement défaillants. Et ce n'est pas juste les moyens de contrôle, c'est aussi la formation des commissaires aux libérations conditionnelles. Est-ce qu'ils sont aptes à vraiment juger de la dangerosité de quelqu'un? Je pense qu'on a vu malheureusement des cas dernièrement où ça a été... ça s'est soldé par des vies de volée. Mais au-delà de tout ça, même si les conditions sont là, il n'y a pas un policier ou il n'y a pas un agent correctionnel qui peut suivre chacune des personnes au jour le jour.
Et il y a même des psychologues ou Libération conditionnelle qui font des rapports disant qu'il est un haut risque. Et la réponse est souvent, c'est un risque... qui est gérable ou pas gérable. Il n'y a pas de réhabilitation.
C'est acceptable.
Acceptable.
Pour nous, quelqu'un qui a un haut risque, c'est malheureusement peut-être des futures victimes ou des personnes qui sont extrêmement vulnérables où leur vie va être brisée. Je pense qu'il ne faut pas prendre ce risque-là. Si cette personne-là, il va falloir l'encadrer, la contrôler, puis il faut se donner des moyens pour les contrôler correctement, pour pas que non plus on ait encore des femmes qui se fassent malheureusement assassiner ou ils auraient pas dû, des gens auraient dû rester en détention.
En fait, c'est pas un problème de sentencing, c'est un problème de libération conditionnelle.
Exactement. C'est un problème aussi de
suivi.
Niveau de pouvoir suivre ces personnes-là. C'est que donnons-nous les outils, les bracelets électroniques, c'est prouvé que on pourrait savoir si la personne contrevient à ses conditions de liberté. Donc, ça pourrait protéger plusieurs dizaines et voire centaines de victimes au Québec, au Canada.
On ne faut pas retourner au Western, par exemple, puis mettre le portrait du monde sur les poteaux, là.
Non. Je pense qu'on peut l'encadrer de façon professionnelle, comme d'autres provinces l'ont fait. Et je pense que ça peut être un groupe de professionnels du milieu de la justice qui analyse qui devrait être sur le registre, qui devrait être rendu public pour protéger les victimes parce que le système judiciaire est arrivé au bout de ce qu'il pouvait. Donc, il serait rendu public à certaines conditions.
Michel Cox avait été libéré de prison en 2017 après avoir purgé les deux tiers de sa peine, ce qui est dans la règle où deux tiers, tu es remis en liberté conditionnelle pour des actes commis en 2002 et en 2004. Il était considéré comme un prédateur sexuel sadique, à haut risque, et vendredi dernier, Cox a tenté d'enlever une adolescente en se faisant passer pour un policier dans le quartier d'Outremont à Montréal. Ça, c'est le cas patent de ce que vous voulez régler.
Oui, exactement. Tous ceux qui ont un niveau de dangerosité, tous ceux qu'on pense qu'ils pourraient peut-être récidiver, pourquoi prendre la chance de les remettre en liberté? Il va falloir combien de victimes, il va falloir combien d'assassinats pour qu'on s'assoie puis qu'on dise non, c'est terminé. On se donne des outils pour protéger les victimes. Les victimes, malheureusement, ont peu de droits. Ils ont peu de protection, puis c'est ça qu'il faut que ça change, là.
Madame Roy, directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, merci beaucoup de votre participation et de vos lumières là-dessus. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir. Vous voulez nous rejoindre, avoir vos réactions pour la grande région de Montréal, le 514-790-9850 et à l'extérieur de Montréal, 1-866-790-9850.
Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
On a quelques minutes pour prendre quelques appels. Kevin est avec nous. Bonjour, Kevin. Votre réaction?
Bonjour. Écoutez, moi, comme je viens de parler avec justement votre recherchiste, c'est que je suis pour, mais en même temps, je suis contre sur certains points pour mettre la liste de registres en ligne. Je suis pour le fait que...
Elle n'est pas en ligne. Elle ne serait pas en ligne. Elle serait gérée par des gens compétents en la matière pour être capable de voir les plus à risque, les moins à risque, où ils se situeraient. Mais ce ne serait pas publié là, comme une liste électorale.
Non, non, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que dans certains pays, ils ont déjà fait le test.
Oui.
Et c'est toujours un pour et un contre. Je veux dire, je suis totalement pour, sauf que ça laisse opportunité aux personnes qui voudraient se faire justice eux-mêmes également.
C'est dangereux pour la justice de la rue. Vous avez tout à fait raison, Kevin. Merci de cette précision. On va à Sam maintenant. Sam, bonjour.
Bonjour, M. Mongrain.
Bonjour. Alors?
Beaucoup de respect pour votre travail.
C'est gentil, merci.
Moi, je suis totalement pour la publication de ce registre-là parce que je vais utiliser le mot « crotté ». Je pense que il est pas trop fort. Avec ce registre-là, je pourrais savoir où se trouvent les crottés. Et être peut-être, moi, plus vigilant.
J'accepte tout ce que vous me dites, sauf le terme, parce que ce sont des gens qui sont des criminels, j'en conviens, posent des gestes criminels, j'en conviens, mais qui peuvent avoir des problèmes personnels importants, des maladies, etc. Mais vous êtes favorable à ce qu'on rende public le registre des prédateurs sexuels?
Absolument, parce que ça me permettrait, en tant que père de famille, d'être plus vigilant.
Absolument. Merci.
Puis, pour terminer.
Oui, allez-y.
C'est ça. Je veux dire, la justice, si. J'ai la misère à exprimer ce que je veux exprimer, mais.
Si la justice ne peut pas faire le travail, au moins qu'on puisse s'auto-protéger en sachant où ils sont.
Ça serait déjà un avantage qu'on aurait.
Parfait. Merci beaucoup, Sam. Est-ce que j'ai une
Merci.
Autre Oui, je donne les autres numéros de téléphone. Je les redonne si vous les avez oubliés. Même moi, j'ai de la misère, il faut que je regarde mon papier à tous les jours. 1-866-790-9850 pour l'extérieur de Montréal et pour Montréal, 790-9850. Hicham est avec nous. Bonjour, Hicham.
Oui, bonjour, M. Mongrain.
Bonjour.
Mon opinion, c'est... en fait, je voulais savoir comment on allait résoudre ce problème-là si on fournit cette liste-là à des personnes qu'on va déterminer qui auront une certaine responsabilité autour de cette liste. Mais comment on va améliorer le fait qu'on va dénoncer un agresseur qui est à côté d'un parc? Comment la personne va le reconnaître? On va appeler, on va le dénoncer. Comment ça peut être efficace? Moi, je trouve l'idée du bracelet beaucoup plus efficace, parce que là, on va pouvoir les traquer, voir où est-ce qu'ils vont, et ainsi de suite. Mais comment une personne peut voir et puis dire, OK... on prend le téléphone, on appelle la police via simplement une liste. C'est juste ça que je n'arrive pas à comprendre.
Je comprends, parce que vous me dites, un gars peut se promener à côté du parc, puis est-ce que c'est un prédateur potentiel? Est-ce que c'est un véritable prédateur récidiviste potentiel, etc., etc.? On ne le sait pas. Et qu'on ait son nom, c'est beau, mais le gars, il a changé de nom. Là. Il s'appelait Cox, puis il s'appelle Vautour à cette heure. Mais juste quand tu regardes le nom qu'il prend comme pseudonyme, on s'entend que je ne suis pas sûr qu'il file. Là. Je pense qu'il y a une petite cervelle d'oiseau. Marcel, oui, bonjour.
Bonjour, M. Mongrain.
Bonjour.
Moi, en tant que tel, j'ai travaillé en milieu carcéral dans la cuisine. Okay. Et puis, tout ça pour dire qu'une personne, un pédophile, qui prendrait une sentence de 2 ans moins un jour, se retrouverait en sentence au niveau provincial.
Mm-hmm.
Et puis, cette personne-là, en bout de ligne, si elle fait son temps de 2 ans moins un jour au complet, lorsqu'elle sort, elle n'a pas vraiment de conditions. Je pourrais pas dire si elle se retrouve sur le registre ou quoi que ce soit. Mais je sais qu'en tant que telle, une personne incarcérée qui fait son temps au complet, qui ne sort pas...
Ah ben là, il n'est pas libéré sous condition, il a purgé sa peine, c'est terminé.
C'est terminé.
Mais au moment de sa condamnation, le tribunal peut convenir, dû aux circonstances qui sont devant la cour, de déterminer que cet homme doit être enregistré au registre des prédateurs sexuels parce que on a probablement peu de chances de penser à une réhabilitation.
Ça, c'est possible, mais tout ce que je veux dire, c'est que, comme je le nomme, si une personne incarcérée fait juste, comme il dit, ils font le 2/3 de leur peine, mm-hmm. et sortent, à ce moment-là, les détenus, les personnes incarcérées se retrouvent à avoir des conditions. Si les personnes incarcérées, puis là, je parle du minimum.
On est au provincial.
Au provincial, à ce moment-là, si la personne fait son temps complet, donc son 2 ans moins un jour, à partir de ce moment-là, la personne sort et n'a pas nécessairement de conditions à faire.
Tout à fait. Il a purgé l'entièreté de son temps et de sa peine. Merci, monsieur. On va s'arrêter pour une pause et au retour, je parle avec Mme Pauline Marois, qui fut la seule et la première femme à être premier ministre du Québec, et on va lui parler d'une des pierres angulaires, justement, de la formation politique qu'elle a dirigée, c'est-à-dire la protection de la langue et du fait français chez nous au Québec. C'est la fameuse loi 101. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle dit de ce sondage qui vient de paraître, dont je vais vous donner les chiffres tantôt, où on exige de plus en plus l'anglais en milieu de travail?